إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر لنا من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله القسيري حفظه الله تعالى رحمة وحفظه الله جل وعلا ورعاه. طيب فما زلنا في باب عشرة النساء أو ندخل اليوم في باب عشرة النساء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. وقال الشيخ سليمان العشرة ما هي؟ العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والصحبة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب donc on poursuit par la grâce d'Allah subhanah l'explication du livre منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله avec le شرح للشيخ سليمان القسير حفظه الله تعالى. Donc on rentre aujourd'hui dans le sous-chapitre intitulé Bab Ishrat al-Nisa. Donc le chapitre concernant la cohabitation avec les femmes. D'accord ? La cohabitation avec yani les épouses. طيب. Et le comportement adopté avec elles. Donc al-Ishra. Le terme al-Ishratu dans la langue arabe, dit le cheikh, c'est ce qu'il y a entre les deux époux comme intimité, comme familiarité et accompagnement et cohabitation. Ça c'est l'Ishra. Al-Ishratu, c'est ce qu'il y a entre les deux époux parmi la cohabitation, la familiarité, l'intimité, وهكذا. هذه هي العشرة. Il dit Allah تبارك وتعالى par rapport justement à العشرة dans la sourate An-Nisa, dans le sens du verset وعاشروهن بالمعروف. Et vivez avec elles et comportez-vous avec elles, yani avec vos épouses, conformément à la bienséance. Conformément à la bienséance, al-ma'rouf, ce qui est connu comme étant bon et faisant partie du bien dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, mais aussi dans l'usage et dans les mœurs. Il dit également Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate al-Baqara, dans le sens du verset, et elles ont droit ou elles ont des droits équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance. Taïeb, elles ont des droits équivalents à leur devoir, conformément à la bienséance. طيب. فقال أهل العلم هذه الآيات تدل على وجوب العشرة الطيبة مع النساء. أما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله أكبر. Donc on a vu les preuves de l'obligation des bons rapports et de la bonne cohabitation entre les deux époux. Donc c'est l'ishra, pardon. Maintenant, les preuves de la sunna, on a deux hadiths notamment. Le premier, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs d'entre vous avec leur famille. Donc ici, l'ahl rentre dedans, l'épouse bien sûr, mais aussi les enfants, les parents, etc. Taïeb, leur famille. Donc les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs d'entre vous avec leur famille, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Et également la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, yani à une créature, de se prosterner devant une créature, eh bien j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Taïeb, naam. Cela nous montre donc l'obligation de l'obéissance de l'épouse, toujours bien sûr conformément à la bienséance, yani par rapport à son mari. Taïeb. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. بالمعروف، وما معنى المعروف؟ كما قلنا بالفرنسية ما عرف حسنه، ما عرف حسنه شرعا وعرفا. طيب، فأعيد. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعرفا. Donc il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il commence en disant « Et il est obligatoire à chacun des deux époux d'adopter une bonne cohabitation avec l'autre conformément à la bienséance. » Bil ma'rouf, toujours. Donc le ma'rouf, vous remarquerez qu'on le retrouve souvent concernant notamment ce sujet-là. On l'a vu mentionné dans les deux versets tout à l'heure. Et on le voit ici dans la parole de l'auteur qui dit « Il faut que chacun des deux époux adopte un bon comportement et une bonne cohabitation avec l'autre conformément à la bienséance bil ma'rouf. » Mais c'est quoi le ma'rouf? C'est quoi la bienséance? Eh bien, c'est ce qui est connu dans la législation, mais aussi dans les mœurs, dans les usages, comme étant quelque chose de bon. Ma'arifa husnuhu. D'accord? C'est ce qui est connu comme étant bon, comme étant un bon comportement, comme étant quelque chose de bien, que ce soit bien sûr dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi dans les mœurs, dans les us et coutumes et l'usage. Taïm. Hadi hiya al-ma'ruf. فقال الشيخ من الصحبة الجميلة من الصحبة الجميلة فالصحبة الجميلة هذا أول حق من الحقوق المشتركة وهو الصحبة الجميلة بين الزوجين من لين الجانب والطاعة في المعروف والتغاضي عن الهفوات ونحوها. Il poursuit l'auteur رحمه الله en disant, donc parmi el ma'rouf, parmi les choses qui sont conformes à la bienséance, eh bien il y a as-suhbatul jamila, la bonne ou la belle compagnie. La belle compagnie. Donc, ici, on a le premier haqq, le premier droit qui est dû et qui est imposé même aux deux époux. Car on va voir qu'il y a des droits ou des devoirs qui sont propres à l'époux et des devoirs qui sont propres à l'épouse. Mais il y a aussi des droits et des devoirs qui pèsent sur les deux à la fois, sur l'époux et l'épouse. Taïeb. Donc ça, c'est le premier droit qu'on appelle al-haq al-mushtarak, le droit qui est associé à la fois entre l'époux et l'épouse. Les deux se doivent d'honorer ce droit-là, qui est as-suhbatul jamila, la belle compagnie. La belle compagnie, l'un envers l'autre. Et rentre dedans, bien sûr, les nuljanib, yani la tendresse, la douceur, l'obéissance dans yani ce qui est conforme à la bienséance, bil ma'ruf, toujours, le fait d'être tolérant vis-à-vis des erreurs de chacun et de chacune, et autre que cela. Naam. Thumma qala, rahimahullah, wa kaffil adha. Wa kaffil adha. Naam. Fala. يؤذي أحدهما الآخر بلسانه ولا بيده ولا يسبه في عرضه ولا يعيره في أهله ولا يكلفه ما لا يطيق وما شابه ذلك. Il poursuit l'auteur, رحمه الله تعالى, parmi les المعروف, parmi les choses qui sont conformes à la bienséance et qui font partie de la bonne compagnie, de la bonne cohabitation entre les deux époux, eh bien, le fait de, bien sûr, de s'abstenir de nuire à l'autre. Le fait de s'abstenir de nuire à l'autre. Taïeb. Donc, les deux époux ne doivent pas porter préjudice ou causer du tort à l'autre, que ce soit avec sa langue ou avec sa main ou à travers les insultes à l'encontre de l'honneur du conjoint, ou le fait de dénigrer sa famille, ou le fait de charger une tâche ou un travail que la personne ne peut accomplir et n'est pas dans la capacité de faire. Et autre que cela, parmi les préjudices qui peuvent toucher la personne. وَأَلَّا يُمْتِلَهُ بِحَقِّهِ وَأَلَّا يَمْتِلَهُ بِحَقِّهِ فَهَذَا ثَالِثُ الْحُقُوقِ هَذَا ثَالِثُ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ وَهُوَ أَلَّا يُؤَخِّرَ أَحَدُهُمَا حَقَّ الْآخَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَبَرَّمُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَإِذَا طَلَبَ مِنْهَا عَمَلًا مُعَيَّنًا فَتُجِيبُهُ وَإِذَا طَلَبَتْهُ نَفَقَتَهَا فَيُجِيبُهَا فكل يسارع بإجابة الآخر كل يسارع بإجابة الآخر لأن المطلة من الظلم. Puis pour celui qui rahimahu Allah ta'ala, donc parmi la bonne compagnie, la bienséance, le fait que la personne ne doit pas retarder de donner le droit à son compagnon ou à sa compagne. Taïeb. Donc ça, c'est le troisième droit qui est associé entre les deux époux. On a vu le premier, la belle compagnie. Le deuxième droit associé, c'est l'abstention de toute nuisance envers l'autre. Et le troisième ici, le fait de retarder, d'honorer le droit de la personne. Taïeb. Qui lui est dû et qui lui est imposé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci afin que la personne ne soit pas exaspérée et ne désespère pas de son mari ou de sa femme. Donc lorsque le mari demande à sa femme de faire un travail ou de faire une tâche particulière qu'elle est capable de faire, elle se doit de répondre. Elle se doit de répondre à sa demande. Taïeb. De la même façon que lorsque la femme demande à son mari, par exemple, de dépenser pour elle, lorsque la femme demande à son mari de faire des dépenses ou certaines dépenses pour elle, eh bien, il se doit aussi de répondre à sa demande, bien sûr, en fonction de ses capacités. Donc, chacun des deux époux, des deux conjoints, se doit de s'efforcer, de se hâter à répondre favorablement à la demande de l'autre. Car le fait de retarder, le fait de retarder la réponse à ses demandes, à ses besoins, cela fait partie de l'injustice, comme ont dit les gens de science. Non. ويلزمها أولا طاعته في الاستمتاع يلزمها طاعته في الاستمتاع فلما ذكر الحقوق المشتركة ذكر الحقوق الواجبة على المرأة فأولها طاعته في الاستمتاع ولو كانت على التنور تعمل الخبز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور وتجيبه ولو كانت على قتب وهو الرحل الذي على البعير لقوله والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. Puis il poursuit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Il dit, ويلزمها. Donc là, il va énoncer maintenant les droits, ou plutôt les devoirs qui sont propres à la femme. Les devoirs qui sont propres à la femme. Il dit, le premier devoir, l'obéissance à son mari dans ce qu'on appelle al-istimta. Donc al-istimta, lorsque son mari yani, demande à son épouse et l'appelle pour prendre du plaisir avec elle. Tayeb. Donc, une fois que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné donc les trois droits qui sont associés entre l'époux et l'épouse, là il va commencer à énoncer les droits obligatoires, ou plutôt les devoirs même, les devoirs, le hukuk, les devoirs obligatoires qui pèsent sur l'épouse. Et donc le premier devoir, c'est quoi? C'est le fait qu'elle obéisse à son mari par rapport à ce qu'on appelle al-istimta, lorsque son mari l'appelle pour avoir des rapports charnels, pour prendre du plaisir avec elle. Taïeb. Et même si elle est en train de faire cuire le pain, et qu'elle est devant le fourneau en train de faire cuire le pain. Voyez? Et ceci en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit, lorsque l'homme appelle son épouse, les hajatihi, pour un besoin, yani pour un besoin à lui, et on comprend par là, yani le rapport intime, l'istimta, eh bien, elle se doit d'aller à lui, et ce, même si elle est devant son fourneau, ou devant le fourneau en train de faire cuire le pain, par exemple. Et de la même façon, elle se doit de lui répondre, de répondre à son appel, et ce, même si elle est sur un chameau. Elle est sur une monture, sur la monture d'un chameau, ou sur la selle, pardon, d'un chameau. Elle se doit de lui répondre, et ceci, en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi Wasallam, qui a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, la femme n'honorera pas le droit de son Seigneur. Écoutez bien, il dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, c'est-à-dire par Allah tabaraka wa ta'ala, la femme n'honorera pas, ne respectera pas le droit de son Seigneur, c'est-à-dire le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'elle n'aura pas respecté le droit de son mari. Tant qu'elle n'aura pas respecté le droit de son mari, et ce, même si il demande après elle, même si il l'appelle pour avoir des rapports ou pour prendre du plaisir avec elle, alors qu'elle est sur la selle, yani, d'un chameau, eh bien, elle n'a pas le droit de le priver de cela. Non. Taïe, ça c'était le premier devoir qui est propre à l'épouse. الحق الثاني وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. Deuxième devoir qui est propre à la femme, le fait que elle n'a pas le droit ni de sortir ni de voyager sans sa permission. Ça y est, elle n'a pas le droit de sortir ni de voyager sans la permission de son mari. ثالثا القيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. Et troisième devoir ici de la femme, qui est que elle se doit de faire cuire le pain, hein, le khabz, de pétrir, yani, la pâte, etc., les céréales, ou de faire la cuisine, de préparer les repas, yani, en gros tout ce qui est en relation avec la maison et la préparation des repas, du manger, etc. فقال الشيخ سليمان حفظه الله وهذه هي حقوق الزوج على الزوجة وهي إجمالا الأول استجابتها له إذا أراد الاستمتاع بها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي Donc, dit le Cheikh Suleyman, donc le Cheikh ici, l'auteur, a commencé à mentionner les droits de l'époux sur son épouse. D'accord? Les droits de l'époux sur son épouse ou les devoirs de l'épouse par rapport à son mari. Taïb. Donc, de manière général, pour résumer, le premier devoir qui lui incombe à l'épouse, c'est que, on a dit, elle réponde à son appel lorsqu'il désire prendre du plaisir avec elle. Et cela en vertu du hadith d'Abi Huraira que l'on va voir, inshallah ta'ala. الثاني عدم الخروج من بيته أو السفر إلا بإذنه لأنه يحرم عليها صوم تطوع يعني يحرم عليها صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه فمن الأولى أن تستأذنه في السفر أو الخروج من بيته لأنه يحرمه من الاستمتاع بها. Le deuxième devoir de la femme, on a dit, le fait qu'elle n'a pas le droit de sortir de sa maison ou de voyager sans la permission de son mari. Taïeb. Et cela, car, comme vous le savez certainement, la femme n'a pas le droit de jeûner un jeûne facultatif alors que son mari est présent. Voyez? Alors que son mari est présent, elle n'a pas le droit de jeûner un jeûne facultatif sans sa permission. Donc, à plus forte raison, eh bien, elle se doit de lui demander la permission pour voyager ou pour sortir de la maison, car cela fait qu'il ne pourra pas, s'il le désire, prendre du plaisir avec elle. Donc il faut sa permission. وثالث القيام بأعمال المنزل المتعارف عليها كالطبخ ونحوه لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كن يخدمن أزواجهن ومن ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها مما تطحن فبلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسبي فأتته تسأله خادما الحديث طيب في الحديث كذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حتى أو حين عفوا حين تأخذين مضجعك. طيب. Troisième devoir qui pèse sur la femme, comme on a dit tout à l'heure, eh bien tout ce qui est relatif au travail de la maison, au travail du foyer, reconnu de la société comme étant yani, un travail que la femme yani, se doit d'accomplir tel que la cuisine et autre que cela. Taïeb. Cela car les épouses même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, ainsi que les épouses des Sahaba, radiallahu anhun, eh bien, étaient au service de leurs époux. Et cela également a été rapporté, notamment a été rapporté dans le hadith de Ali, radiallahu anhu, qui était marié à la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Dans ce hadith, on apprend que Fatima s'était plaint de la difficulté de son travail pour son époux lorsque elle était à la meule. Donc, Raha, c'était la meule à l'époque, d'accord, c'était deux morceaux de pierre l'une sur l'autre et qu'on faisait tourner pour écraser et pour moudre le blé ou les céréales et les grains, etc., etc. Donc, elle se plaignait de la difficulté de cela. Et lorsqu'elle a appris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait avec lui une personne qui était prisonnière, hein, qui était prisonnière, elle est partie auprès de lui pour justement lui demander que le prophète, il mette à son service ce prisonnier. Taïeb, jusqu'à la fin du hadith. Et on apprend également que à la fin du hadith notamment, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ala adulluki ala ma huwa khayrun laki min khadimin. Il lui a dit, ne voudrais-tu pas que je t'indique ce qui est mieux pour toi qu'un servant? Il lui a dit, tu glorifies Allah. C'est-à-dire, tu dis Subhanallah 33 fois. Tu loues Allah 33 fois. C'est-à-dire, tu dis Alhamdulillah 33 fois. Tu dis Allahu Akbar 34 fois lorsque tu te rends, yani, dans ton lit pour dormir. Taïeb? Naam. Donc, on voit dans ce hadith que donc Fatima, la fille du prophète, était au service de son mari, Ali, radiallahu anhu. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في خدمتها لزوجها. Et donc on comprend aussi par là que le prophète صلى الله عليه وسلم, bien sûr, il a approuvé le fait que sa fille Fatima soit au service, hein, et travaille, yani, pour son époux Ali رضي الله عنه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة الصدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب. Et le, un deuxième hadith qui prouve aussi que les femmes des compagnons étaient au service de leurs époux, ils travaillaient pour leurs époux. Le hadith rapporté par Asma binti Abi Bakr radiallahu anha, qui a dit Az-Zubayr m'a épousé et il ne possédait, yani, sur terre, ni argent, ni esclave, ni rien, si ce n'est un chameau et un cheval. Si ce n'est un chameau et un cheval. Et donc, elle dit, elle raconte un peu ce qu'elle faisait pour lui. Elle dit, je nourrissais son cheval, j'allais chercher de l'eau, je cousais sa garba, c'est-à-dire le récipient d'eau, yani, qui était à l'époque fait de peau, etc. Ou a'jin, donc elle pétrissait la pâte, etc. Puis elle dit, walam akun uhsinu akhbiz. Et je ne maîtrisais pas, yani, la fabrication du pain. Taïeb. Donc elle disait, et ce sont donc mes voisines, ou certaines de mes voisines, qui faisaient le pain, yani, pour moi, parmi les Ansar. Et elle dit, elles étaient des femmes, yani, véridiques. Puis elle dit également, وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى, et je transportais, yani, les noyaux des dattes de la terre de Zubayr sur ma tête. وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخِينَ. Il faut savoir que la terre de Zubayr, en plus, était à une distance de chez elle de deux tiers des farsakh. Donc un farsakh, c'est une distance qui est, comme on dit les savants, de 6 km à peu près. Donc deux tiers de 6 km, c'est 4 km. Donc elle faisait, elle transportait ces noyaux-là, de dattes, ces graines de dattes, etc., jusqu'à chez elle, sachant que la terre de Zoubeï se trouvait à 4 km de chez elle. Bien sûr, elle faisait cela à pied. Naam. Taïeb. Donc, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب نعم الحمد لله نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى وصغت لا بوغ اجوردي بإذن الله سبحانه وتعالى et donc lundi prochain on commencera à évoquer les devoirs du mari par rapport à sa femme. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته